J'adore, j'ai une fascination pour les moumous.
En silicone.
C'est gras, il n'y a plus d'espoir. Eh les amis, je sais pas si les gens le savent, mais la farine, faut la mettre d'un coup en fait.
Europe 1, 11h, 12h30, la table des bons vivants.
Ça coupe le gras comme ça avec l'acidité. J'adore.
Laurent Bariotte.
Oui, on adore tout ce qui est bon. Soyez les bienvenus, chers amis bons vivants. Heureux de vous retrouver, comme tous les samedis, vous le savez, pour célébrer le goût du bon et du voyage dans nos assiettes. Tiens, ce samedi, on va voir du pays. Vous êtes peut-être d'ailleurs, tiens, sur la route des vacances. Eh ben, on a plein de desserts pour l'été avec Aurélien Rivoire. C'est le chef pâtissier de Yannick Aleno. Il sera avec nous, mais avec des desserts fruités et faciles à faire dès ce week-end. On va se payer aussi une belle part de feta, un fromage frais qui sent bon les vacances. Et puis, on va vous inviter à un grand mezzé au Mucem de Marseille. Voilà, vous savez presque tout. Voici mes bons vivants du jour. Chaque fois qu'elle part en vadrouille, elle vérifie que le tracé est ponctué par de belles tables de chef. Ah, c'est ça. Notre amie Charlotte Langrand du Journal du Dimanche. Bonjour Charlotte.
Bonjour Laurent, bonjour à tous, bonjour Olivier.
Couteau de sommelier, limonadier, à vis, à mèche ou à levier, il a la plus belle collection de tire-bouchons de la radio, c'est Olivier Pouls.
Oui, bonjour, le plus important c'est qu'il fonctionne bien. Et croyez-moi, vous allez voir, on va en jouer tout à l'heure de ce bel instrument.
Et vers midi moins le quart, l'écrivain Didier Van Kovelaert va partager un pambagna avec nous. Il est niçois, donc il sait de quoi il parle. À table les amis. Petit rituel, c'est ça aussi les plaisirs du week-end, ce sont des petits rituels en famille, entre amis, entre copains. Quel est votre goût de la semaine? Je vous la pose, ami bon vivant, de l'autre côté du transistor. Oui, c'est un joli mot moderne, transistor. Ou en podcast, en voiture,
poste
à la
galène.
Maison. Ouais, poste à galène, exactement. Quel est votre goût de la semaine, Charlotte?
Alors, je vous propose de finir l'année dans un grand vacarme. C'est le nom du restaurant éphémère de Sarah Minguy. Vous savez, c'est la finaliste de Top Chef de cette année. Elle s'est installée à Paris, rue de Nancy, dans le 10e, si je ne me trompe pas.
Oui, entre République et Gare de l'Est. Ouais.
Et alors, vous aurez par exemple une petite salade de haricots verts qui sont coupés très fins, là, en petits tronçons, frais et en purée, avec les ribots aux anchois et sarrasin. Franchement, si j'avais eu ça comme salade de haricots verts plus jeune, j'aurais peut-être mieux aimé ça. Franchement, c'est une cuisine végétale sauvage et elle a aussi son restaurant à Nantes. Si vous êtes en vadrouille en ce moment, vous pouvez y aller aussi. Et vous avez ce petit aperçu à Paris jusqu'à octobre.
Eh ben dis donc, on prend ça. Votre goût de la semaine, Olivier Pouls.
Bien, si vous n'avez pas fini votre salade de haricots verts, depuis le 1er juillet, les restaurateurs ont l'obligation de vous proposer de l'emporter sous forme de doggy bag. Alors ça fait longtemps que ça existe dans de nombreux pays, même en France, mais franchement, on ne l'avait jamais vraiment vu. Moi, honnêtement, on ne m'a jamais proposé un doggy bag au restaurant. Je ne sais pas si ça vous est arrivé.
Non, mais parfois, on n'ose pas demander non plus.
Mais oui, mais vous savez que le gaspillage alimentaire, c'est 10 millions de tonnes par an chaque... voilà. Et il y a 14% de ces 10 millions de tonnes qui sont imputables à la restauration. Donc franchement, s'il vous reste un peu de votre salade de haricots verts, vous le demandez, vous l'emportez, je trouve que c'est une bonne démarche.
Non, mais parfois, moi, ça m'arrive de le faire quand on n'a pas tout mangé, qu'il en reste beaucoup. Quand il reste une petite portion, on n'ose pas.
Bon, et puis il y a les trucs, ça va pas, quoi. Les frites en doggy bag, c'est pas terrible.
Elles arrivent momolles.
Et vous, Laurent, votre goût de la semaine?
Eh ben, écoutez, j'étais en tournage dans le sud, là, et c'est le goût du premier abricot bien mûr, bien moelleux, un bel abricot moelleux et juteux et parfumé. Et tiens, à propos, c'est l'heure d'aller au marché. On vous emmène au Paris Fermier. C'est un marché de producteurs qui est itinérant dans toute la région parisienne. Alice Fosse s'est rendue à la ferme de la Tremblay, c'est dans les Yvelines, pour vous demander ce que vous veniez chercher dans ce marché pas comme les autres.
Ce matin, nous avons acheté du miel, des ruchers de Normandie, du miel d'acacia que toute la famille apprécie. Mais là, c'est l'occasion de parler directement avec le producteur.
Tomates, courgettes, aubergines, pour faire une ratatouille et puis avoir des produits du jardin, faire travailler les producteurs.
Une glace à la framboise et des fraises et la chantilly.
J'ai acheté des flageolets verts, graines de courge et de la farine et un fromage parmesan roquefort.
On a acheté de l'huile d'olive, du pain, des cerises et puis peut-être un peu de pain d'épices aussi. Ça nous change de notre vie de francilien de tous les jours, donc de voir un peu plus de nature, un peu plus de bio et puis un peu plus de terroir aussi parce qu'il y a plusieurs régions qui sont représentées, donc c'est toujours agréable de découvrir des spécialités d'autres régions françaises. Quoi.
Alors, viens manger avec nous, regarde, il y a de la tomme, il y a du chorizo, il y a du saucisson,
il y a même de la verdure, il y a de la salade.
Mais reste pas dans ton coin, viens à table, voyons. Ah bah voilà,
on veut bien venir aussi d'ailleurs.
Merci Alice Foss pour ce joli Paris Fermier. Et à propos, la prochaine édition du marché Paris Fermier aura lieu à Méry-sur-Oise en septembre, puis au Parc Floral de Paris en octobre. Donc c'est le meilleur de nos régions, vous l'avez compris, et ça fait du bien. Tiens Charlotte, un goût régional que vous aimez retrouver toute l'année ou je sais pas, en vacances.
Alors c'est pas si simple à trouver toute l'année, mais moi je ne dis jamais non à une petite charcuterie corse, un lons ou une cope.
Oui, alors là je vous suis.
Avec un petit peu de caractère comme ça,
oui, bien
sans
fraîche.
Rien, même pas ni pain, ni... peut-être un petit peu de cornichon parce que j'aime beaucoup ça aussi, mais sinon comme ça, directement, bien sèche.
Et taillée finement.
Et taillée très finement.
Ah, c'est ça qui compte aussi pour le goût. Et vous, tiens Olivier,
ben, je pourrais vous apporter
régional.
La boisson si vous voulez.
Ah, s'il vous plaît.
J'ai redécouvert il n'y a pas très longtemps, il y a un ou deux ans, l'hydromel, qu'on reproduit d'ailleurs dans le Nord, boisson de nos amis, enfin de nos ancêtres plutôt, les Gaulois. Je trouve qu'il y a une vraie typicité et il y en a de très bons.
Oui, c'est bon ça. Et pour terminer un repas, c'est vrai que
c'est très digeste.
Il y a ce côté effectivement fruité du miel, c'est délicieux. Moi, si je devais choisir, je reparle du Sud parce que j'en reviens, c'est la brousse du Rove. Vous connaissez ce fromage frais, je pense à la famille Guiran, Franck et Marc Guiran qui élèvent 300 bêtes du Rove, des chèvres qui vivent dans la garrigue en liberté. C'est un lait qui est magnifique avec un goût, c'est parfumé, c'est délicat. Et la brousse du Rove, c'est compliqué d'en trouver ailleurs que là-bas. C'est ça que j'aime aussi dans ces produits régionaux, c'est que parfois on ne les trouve que sur place. Et c'est ce qui fait leur charme. Allez, restez avec nous, on va déguster un fromage caillé, qui sent bon l'été et la graisse, pas la matière grasse. Le pays, c'est la feta. A tout de suite.
11h30 sur Europe 1, la table des bons vivants.
Au rayon fromage, la feta à la côte, souvent imitée, jamais égalée. La vraie feta au lait de brebis, bien entendu, fait partie des fromages qui sentent bon les vacances. Elle est même devenue tendance sur les réseaux sociaux, comme TikTok par exemple, avec une recette ultra simple, vous avez peut-être vu ça. Des pâtes, un morceau de feta rôti au four, et puis des tomates cerises. Et résultat, comme des moutons, la planète entière se rue dans les magasins pour acheter de la feta, Charlotte.
Ah, attendez, le succès de la recette a été tel qu'il y a carrément certains fromagers qui ont dû augmenter leur production de feta parce qu'à la sortie de la vidéo dans le pays où elle est sortie, c'est-à-dire la Finlande, la feta était en rupture de stock pendant plusieurs jours. Les ventes ont explosé quand même de 300%. C'était en 2019.
C'est énorme.
Oui, c'est quand même dingue.
C'est un truc de dingue. Tiens, cher Olivier, vous qu'on retrouve tous les jours du lundi au vendredi à 16h dans Historiquement Vôtre avec les camarades Mathieu Noël et Stéphane Bern, racontez-nous l'histoire de ce fromage grec.
Ah, il était une fois, il y a de nombreuses années.
Avec votre peau de bête.
Non, c'est un fromage qui existe probablement depuis des millénaires, mais on en trouve les premières traces écrites au 8e siècle avant Jésus-Christ, dans l'Odyssée d'Homère, figurez-vous, et le cyclope Polyphème, qui est entre parenthèses anthropophage, donc pas a priori amateur de fromage, qui semble être le premier producteur de feta un peu par hasard, puisqu'il gardait du lait de brebis dans sa grotte. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, le lait s'est mis à cailler, il l'a goûté, il a trouvé ça délicieux. Et la feta était née. Mais on n'a pas parlé de feta avant le XVIIe siècle, en tout cas sous ce nom-là.
Et au lait de brebis, attention aux arnaques.
Absolument.
Contrairement à ce qu'on pense, le nom feta n'a rien à voir avec la Grèce, avec la tradition hellénique, puisque ça vient de l'italien feta.
Ah oui,
je ne sais pas si je prononce comme il faut, mais ça signifie tranche. Donc
d'accord.
En fait, rien
c'est
à voir avec
grec.
La Grèce.
Oui.
Et c'est un fromage qui a aussi été très popularisé, il faut bien le dire, par une marque. On se souvient tous peut-être de cette publicité, la feta salakis au bon lait de brebis. Sachez que elle ne peut plus s'appeler feta parce qu'elle ne rentre pas dans le cahier des charges.
Il y a une appellation d'origine contrôlée depuis 2002.
On va parler justement de la vraie feta artisanale. Pour mieux comprendre justement l'attachement des Grecs à ce fromage, on vous emmène rencontrer Alessandros Ralis, sélectionneur de produits grecs. Il a fondé la boutique Profil Grec il y a 12 ans dans le 20e arrondissement de Paris. Très belle adresse. Alors, quel est le rôle de la feta en Grèce? Comment la mange-t-on? Réponse au micro d'Alice Foss. Elle s'est régalée cette semaine.
Sans feta, pas de table grec. C'est assez rigolo. La feta n'est pas un fromage, en fait. C'est presque un condiment. C'est un produit qui est utilisé au milieu de la table et qui va, en fait, assaisonner les plats de tout ce qui est légumineuse. Pas du tout dans l'idée d'un fromage à la française. C'est-à-dire c'est aussi important en Grèce, la feta, que le sel, le poivre, l'origan, ou c'est ces produits-là qui font la cuisine grecque. On va avoir des fetas très laiteuses, crémeuses, janvier, février, mars. Et plus on va aller vers l'été, et plus elle va être assez sèche. Donc nous, on privilégie vraiment cette période pour avoir quelque chose de gras, d'intéressant, d'assez long en bouche, et en fait c'est ça ce qui différencie. On peut voir les fetas, des fetas artisanales avec des fetas industriels où il n'y a aucune quelque part identité. Nous, c'est exactement le contraire qu'on recherche, c'est une identité, c'est une force, c'est une puissance, et c'est pour ça qu'on défend quelque part ce mode de production artisanale qui est millénaire. On la pose dans l'assiette, donc on va faire quelque chose de très brut, l'origan sauvage ramassé sur les montagnes du Taïet, et le boukovo qui est une espèce de piment fumé, joli trait d'huile d'olive, une assiette d'une simplicité tout à fait grecque, fraîcheur et bonheur.
Ah, ben voilà, on est déjà en vacances. Et on va prolonger le goût des vacances, comme vous dites, Olivier, parce qu'on l'a avec nous au studio Coluche, cette feta.
Elle est bonne.
Elle est bien ferme. Elle est sèche, hein, effectivement, il le disait, on rentre dans la période un petit peu plus sèche. Avec, alors, c'est le boukovo, je ne connaissais pas, ce piment fumé grec, là, qu'est-ce que ça donne?
Mais alors, surtout, c'est une puissance en bouche, ce fromage, c'est absolument incroyable. C'est puissant et en même temps doux. Il n'y a pas
ça
de violence.
Pas, oui, voilà. Ça agresse pas
ça
du tout.
Ça sent la brebis, mais moi j'adore.
Ah oui.
Mais c'est vrai, comme vous dites, c'est lacté légèrement. Ouais.
Non, mais justement, les bienfaits de la feta viennent justement, vous parlez de la brebis, de son lait, de la nature même de ce lait de brebis, qui est beaucoup plus riche en protéines et en matière grasse que le lait de vache, mais dont les protéines sont beaucoup plus digestes et mieux absorbées que l'organisme. Donc c'est peut-être aussi ça qu'on sent directement en bouche.
Oui, puis ce petit boukovo, il amène une touche un peu végétale. C'est pas piquant du tout,
non, hein.
C'est très doux aussi comme piment.
Ce serait un peu cousin du piment d'Espelette, on pourrait dire. Ça chauffe, mais ça pique
entre
pas trop.
Entre le poivron et le
ça
piment d'Espelette.
En fait, ça souligne.
Exactement.
La fin de bouche, un tout petit peu. Tiens.
Ça picote un peu maintenant.
En fin de bouche.
Moi aussi, vous avez raison, mais c'est ça qui est génial avec ces plats, c'est qu'il y a plusieurs sensations qui arrivent au fur et à mesure. De l'huile d'olive par-dessus, c'est délicieux. Fait-on la feta cet été, chers auditeurs? Comment vous l'aimez, tiens, en plat d'été, en cuisine?
Vous savez, moi, je la grille sur le barbecue.
Ça fond pas?
Non, il faut pas la laisser trop longtemps.
Oui, parce que...
Mais quand vous avez vos braises, vous mettez votre tranche de feta sur le barbecue pour la marquer.
D'accord, rapide.
Rapide, on la retourne, à peine 30 secondes de chaque côté. Ça va commencer à fondre, mais pas suffisamment pour dégouliner dans les braises. Et là, vous avez un entre-deux, une feta un peu molle et encore ferme au milieu. Et ça donne un petit goût que je trouve délicieux.
Ouais. C'est vrai qu'en salade, tout simplement, hein, la fameuse salade grecque. Pourquoi changer une recette qui gagne, hein.
Tomate, concombre, oignon, feta,
olive,
huile d'olive.
Et de la bonne huile d'olive. Bien verte.
Et de l'origan, comme il l'a dit aussi.
Et puis alors maintenant, on a vu aussi pas mal de pastèques aussi arriver avec, et ça se marie très bien, je trouve.
Absolument, il y a une trilogie. C'est ça, la trilogie de l'été, pour moi, c'est ça, c'est melon, pastèque, feta, avec un petit filet d'huile d'olive. Faites ça, c'est une valeur sûre, vraiment, et c'est pas beaucoup de boulot, pour le coup, hein, c'est fastoche. Allez, on continue de se régaler, tiens. On vous invite à un grand mezzé, on va continuer avec les saveurs de la cuisine méditerranéenne, du régime crétois à la diète méditerranéenne. Eh bien, le Mucem de Marseille fait la part belle à cette belle cuisine orientale. A tout de suite après la pause.
La table des bons vivants sur Europe 1.
Métissé, pluriel, la cuisine française, vous le savez, hein, est loin d'être figée. On en parle régulièrement ici le samedi. Elle bouge, hein, en adoptant les recettes et les produits des pays voisins et lointains. Alors, à l'occasion de l'exposition Le Grand Mezzé au Mucem de Marseille, nous avons enquêté avec notre petite équipe sur l'apport des cuisines arabes dans notre cuisine du quotidien. Et le moins qu'on puisse dire, eh bien, c'est qu'elle est bien présente. Cette exposition rend bien compte de la diversité de la cuisine arabe et méditerranéenne, Charlotte.
Oui, c'est l'objectif même de l'exposition Le Grand Mezzé, donc au Mucem à Marseille. Ça retrace déjà l'histoire plurielle des cuisines méditerranéennes, et puis ça montre que ce bassin méditerranéen, eh ben, ça a été vraiment la rencontre du goût du monde. C'est une cuisine métissée, hein. Souvent, on a des bases de recettes qui sont les mêmes et qui sont déclinées dans tous les pays autour de cette Méditerranée. Donc vraiment, on voit bien ça dans cette exposition. C'est bien de voir que nous en sommes les héritiers.
Oui, le bassin méditerranéen qui a été pendant des siècles et des siècles le carrefour du monde entier, entre l'Asie, l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Inde, tout convergeait finalement par là. Et puis, c'est ensuite développé et essaimé jusque chez nous en Europe.
Oui, si vous voulez un petit exemple.
Oui, c'est ce que j'allais vous demander. Oui.
Mais c'est l'emblème de la gastronomie espagnole. Hein, mais en fait, elle n'aurait pas existé sans l'implantation du riz par les conquérants arabes du 8e siècle.
Ben voilà, c'est beau, les influences. Voilà. Et en France, la civilisation arabe a aussi influencé notre cuisine. Il y en a beaucoup et pas toujours ce qu'on imagine, hein, des influences. Tiens, écoutez un bruit de cuisine et devinez la recette qu'il y a derrière. Allez, petit indice, c'est une recette maghrébine qu'on retrouve en Espagne, en Italie, au Portugal et même jusqu'au Brésil.
Il y a de l'eau, il y a du liquide en tout cas.
Ouais.
Oh là là, c'est difficile.
Ah ouais.
On n'entendait pas des graines un peu?
Si, du riz peut-être, non, du couscous.
C'est le couscous qu'on entendait, effectivement. Alors, comment le couscous s'est installé sur les tablés de Méditerranée? Édouard Delaubry, qui est commissaire de l'exposition Le Grand Mezzé au Mucem de Marseille, fait le tour de la graine pour nous.
On ne s'attend pas à ce qu'on fabrique du couscous au Portugal. Là, on est tout au nord du Portugal, à la frontière avec l'Espagne. On voit également toutes les étapes, c'est-à-dire comment on va agglomérer la farine pour créer des grains. Alors, on n'obtient pas un couscous comme celui du Maghreb. On obtient un couscous beaucoup plus agglomérée, agglutinée, qui ressemble à du riz. Les pays, notamment les pays européens, ont eu des empires coloniaux partout dans le monde. Et donc, c'est pour ça que le couscous est allé du Portugal jusqu'au Brésil. Il a suivi, en quelque sorte, les hommes, quoi. Le couscous n'existe pas qu'au Maghreb.
Portugal.
Mais aussi Sicile, mais aussi Espagne. C'était ça que je voulais aussi montrer dans cette exposition, c'est-à-dire des éléments que le public n'a pas forcément l'idée de voir ou de découvrir.
Et ben voilà, merci Édouard de Laubry pour ses confidences au micro de Julien Hamat. C'est vrai que c'est passionnant. Alors, je pense, tiens, à l'instant à Frédéric Grasser-Hermé, qui est auteur culinaire et qui a gagné un championnat du monde de couscous. Vous savez, en, ouais. En faisant quoi ? En remplaçant la graine par du pain rassis. Qu'elle a fait sécher et lui a redonné la consistance de cette graine.
Oh, quel boulot.
En Sicile, parce que le couscous est très implanté aussi en Sicile. Incroyable. Par ses apports et ses influences. Allez, tiens, on va continuer cette belle visite d'exposition du MUCEM avec une devinette. Je suis né à Bagdad. J'ai d'abord été un Médoc avant d'être un bon bec. On me croque aujourd'hui en Provence et même dans la Drôme. Qui suis-je ?
Médoc,
les habitants de la Drôme.
Donc d'abord un médicament avant d'être un bonbon. Les bonbons de la Drôme, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer ?
Les bonbons de la Drôme. Remonter, je ne sais pas, moi, Montélimar.
Ah, le nougat.
Le nougat. Ben oui.
C'était un médicament ?
Exactement, au départ c'était un médicament. Il était utilisé pour des raisons médicinales. Mélange de miel, de sucre, de fruits secs pour lutter contre les toux et les pleurésies. Et grâce au commerce et aux conquêtes, eh bien, le nougat, il était adopté et adapté à Montélimar au XVIIe siècle avec l'introduction des amandiers en Provence. Ouais, donc c'est amusant comme toutes ces influences justement nous nourrissent au fil des siècles. Mm-hmm. On rappelle tiens cette expo, c'est intéressant Charlotte.
Le Grand Médecin au MUCEM de Marseille, donc dans le 2e arrondissement jusqu'en décembre 2023. Tarif 11 euros, vous retrouvez toutes ces infos sur europe1.fr.
Et à propos, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter également, vous la recevrez gratuitement dans votre boîte mail tous les dimanches à 10h. Il y a toutes nos bonnes adresses, les références, les vins dont on parle, les recettes et puis évidemment les tables de chef. Allez, ne bougez pas, c'est l'été, on va faire le plein de desserts fruités avec le pâtissier Aurélien Rivoire. C'est le chef des douceurs au restaurant de Yannick Aleno et il va nous donner des desserts de cuisinier, comme on dit, des desserts faciles à faire pour l'été avec de jolis fruits de saison. Bon samedi sur Europe 1. C'était Maroon 5 sur Europe 1. L'été et les vacances sont une bonne occasion, vous le savez, de prendre le temps de retrouver le goût des saisons en faisant des desserts fruités et faciles à faire. Rien de tel, tiens, que les conseils d'un chef pâtissier pour réussir une tarte aux abricots ou une pêche melba maison. Aurélien Rivoire, le chef pâtissier de Yannick Aleno, va nous aider à faire de beaux desserts sans prise de tête. Bonjour Aurélien.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Merci d'être là.
Merci de m'accueillir.
Jeune chef pâtissier de 33 ans.
C'est ça.
Aux côtés de Yannick Aleno. Il y a combien de tables chez Yannick Aleno maintenant ? Il y a 6 restaurants.
Au pavillon de Doyen, il y en a déjà 3, et avec 3 identités très différentes. Et puis après, bah, il y a forcément à Courchevel en hiver, il y a Saint-Émilion récemment dans le groupe, et puis on est à Monaco aussi. On a de quoi, on a des identités qui sont belles.
Et vous travaillez sur tous les desserts des restaurants, en fait.
Ouais. Donc, moi, j'ai le challenge d'essayer de suivre le chef dans ses projets, d'aller aussi vite que lui. C'est pas facile tous les jours.
Vous dites qu'il vous a aidé à trouver votre style, Yannick Aleno. Comment vous le définiriez, votre style, alors, Aurélien Rivoire ?
En fait, je pense qu'on fait des desserts différents et qui sont très axés sur l'émotion du goût avant tout. Et il m'a aidé, bien entendu, ça fait 6 ans que je travaille avec lui intensivement sur ma création de dessert, tout ça. Et qui de mieux que Yannick Aleno pour la vision et une expérience et un palais magnifique.
Le goût plus que le visuel, vous dites souvent tous les deux, c'est ça.
Ben, en fait, je pense que la mémoire gustative est plus importante que visuelle, même si aujourd'hui tout va vite avec les photos.
Ouais.
Il faut en avoir conscience, mais je pense que le souvenir du dessert... de ma grand-mère, je l'ai en goût, je ne sais plus à quoi il ressemblait.
Alors justement, parlons-en parce que vous êtes chef pâtissier et la pâtisserie, c'est vrai, souvent ça impressionne parce qu'on sait que c'est technique, que c'est très précis. Et là, c'est l'été, on arrive dans la saison des pêches, des abricots, des cerises, des framboises, des fruits rouges. On a envie de faire, comme on dit, des desserts de cuisinier.
Oui, tout à fait.
Des desserts de grand-mère, quoi, fastoche à faire, des tartes, des cakes. Ce serait quoi, tiens, votre dessert de l'été pour vous en famille idéale?
Le dernier que j'ai fait entre amis chez moi le week-end dernier, par exemple, en fait, moi, j'aime bien, c'est je poêle un fruit, donc on va cuisiner un fruit. Alors, bien sûr, le fruit ne voit pas le frigo et il est le mur le plus possible. Et puis après, vous accompagnez ça par une glace vanille et une meringue. Alors, je la fais souvent sans sucre maintenant, mais je sais qu'à la maison, c'est compliqué. Mais des éclats de meringue, une glace à la vanille et un fruit poêlé magnifique. Et franchement, tout ça au milieu de la table pour le partager.
C'est
et
ça, les fruits rôtis, c'est
amis
super.
Ou
ça
la
fonctionne
famille.
Toujours, ouais.
Ça fonctionne.
Alors, ce qu'il faut peut-être dire à nos auditeurs, c'est vrai que quand on poêle les fruits, quand on les rôtit, ils rendent toujours un peu d'acidité. Hein, ouais. Donc, il faut un petit peu contrebalancer comme vous le faites avec de la meringue ou des fruits secs, par exemple.
C'est ça. Alors, encore plus, les fruits du moment ont souvent une belle acidité. Moi, j'aime bien l'acidité de l'abricot. Mais en fin de compte, le jus tombe dans la poêle et on cuit tout doucement, contrairement à ce qu'on pourrait toujours entendre d'agresser très fort les fruits, c'est pas vrai. On finit le confisage du fruit très doucement et le jus, il se concentre. Et là, il n'y a pas besoin de recette. Il y a juste besoin d'une cuillère et de goûter toutes les 3 minutes.
En fait. Parce que quand on cuit le fruit, en fait, c'est l'eau qui s'évapore. Il concentre les saveurs, le sucre et l'acidité.
Ben, en fait, vous venez de décrire une grande partie de mon travail. Aujourd'hui, je parle de desserts sans sucre. Mais attention, pas de dessert sans goût. Et bien sûr, le sucre des fruits est mon meilleur ami. Quand je dis dessert sans sucre, c'est pas dessert sans le goût du sucre, bien entendu. C'est
sans sucre ajouté.
Sans sucre blanc, tout à fait.
C'est intéressant ce que vous dites, parce que vous avez été élu pâtissier de l'année 2021 par le Goemio.
Tout à fait.
Et notamment grâce à vos recherches sur les confits de fruits pour sucrer, c'est-à-dire que pas de sucre ajouté. Et vous nous en avez apporté, alors racontez-nous, c'est des fruits confits que vous faites vous-même, hein,
oui,
c'est ça?
Tout à fait. En fait, je trouve que la confiserie en France fait partie du patrimoine. Là, vous avez des fruits confits qui sont confits dans leur propre jus.
Je viens d'avoir un ananas, là c'est incroyable.
Ah, c'est génial.
C'est hallucinant parce que c'est un fruit confit, c'est la première fois que je goûte ça, qui est juteux.
Mais c'est ça. Ouais. Et là vous avez des fruits qui ont un an de conservation à température ambiante. Donc en fait, c'est aussi une réponse écologique aux saisons. Moi je suis un partisan de manger le fruit en saison, mais en fin de compte ça me permet aussi
De
proposer une fraise au mois de décembre.
Mais comme les bocaux de nos grands-mères, quand on va rentrer dans la saison de Mirabelle, on est content d'ouvrir un bocal de Mirabelle en novembre.
Ce qui est extraordinaire en fait, c'est que c'est le fruit puissance 10. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'ajout du sucre qui vient empâter comme souvent dans les fruits confits où ça colle aux dents. Là en fait c'est le goût du fruit, il n'y a rien d'autre. Hein. Pour le décrire, le goût de l'ananas, c'est l'ananas qui explose en bouche. Mais c'est du concentré d'ananas.
Ça ressemble à des fruits confits, on va dire, mais ils n'ont pas cette robe très brillante où on sent que c'est saturé en sucre, évidemment. Hein. Parfois, c'est trempé dans tellement de bains, les fruits confits, et quand ils sont bien faits, c'est délicieux. Mais là, on a un côté, effectivement, entre confit et sec.
C'est tout à fait, en fait. Il y a une grande période de déshydratation à température ambiante, en fait, et il y a une cristallisation naturelle qui se forme et qui protège le jus à l'intérieur. Je ne sais pas si je suis clair.
Si, c'est clair.
Mais en tout cas... ça fait partie de notre travail avec le chef, avec Yannick Aleno. C'est la concentration du goût. On en parle tout le temps. Et en fait, ça va dans la continuité de la sauce, de la cryoconcentration, de l'extraction.
Mais c'est le bon côté du goût de l'époque qui veut des choses moins sucrées, moins d'additifs, moins de conservateurs, etc. Ça vous pousse, les gens comme vous qui ont du talent, à vous surpasser et à faire des obstacles, vraiment des choses encore meilleures qu'avant, finalement.
Et en fait, ça, je le dois encore une fois à mon chef. C'est quelqu'un qui jamais ne s'assoit sur ce qu'il a déjà fait, mais il voit plus loin. Mmh. Le sucre, on sait qu'on n'en veut plus. On veut manger bien, on veut manger local. C'est aussi écologique, parce que pensons à notre planète et à notre corps.
On vous a promis des desserts d'été faciles à faire à la maison. Ne bougez pas, on revient dans un instant avec un beau chariot de desserts d'été avec Aurélien Rivoire. A tout de suite.
Europe 1.
Pêche, framboise, abricot, mûre, cassis, cerise. Comment pâtisser les fruits de l'été en toute simplicité? Eh bien, Aurélien Rivoire, le chef pâtissier des restaurants de Yannick Aleno, est avec nous ce matin, élu pâtissier de l'année 2021. Il nous régale avec ses fruits confits depuis tout à l'heure, des fruits confits au naturel, c'est comme ça qu'on pourrait le dire. Hein. C'est la saison des fraises, des abricots, des cerises. Quel est le top 3 tiens, de vos fruits d'été préférés, Aurélien Rivoire?
Alors, incontestablement, le numéro 1, c'est la pêche. De la pêche de mon grand-père qui était extraordinaire. Après, il y a la cerise.
Vos grands-parents étaient maraîchers. Hein.
Ouais. Tout, en fait, moi, je n'ai pas grandi dans la gastronomie, mais j'ai grandi dans le goût du produit. Donc, extraordinaire. J'ai vraiment beaucoup de chance.
Qu'est-ce qu'on fait avec une pêche à la maison alors?
Avec une pêche à la maison, on la poche dans un petit sirop. On a souvent en été un peu des herbes aromatiques dans le jardin. On fait un petit sirop, on poche ça tout doucement. Et encore, si on n'a pas envie de la manger crue, mais... là, on parle quand même de transformer.
Vous diriez quoi comme dosage de eau et sucre pour un sirop?
Déjà, je ne mettrais pas de sucre, je mettrais du miel.
Ah oui.
Et puis 150 grammes de miel pour 1 litre d'eau.
C'est ça, voilà. Hein.
Et puis après, on laisse le jus de la pêche parce qu'il va y avoir une osmose entre le sirop et le fruit. Et puis on laisse le jus de la pêche prendre sa place. Et après, on réduit un petit peu, l'eau s'évapore. Et le goût arrive.
Et on peut même les pocher avec la peau. Ensuite, on retire la peau et on a comme ça une chair très veloutée qu'on va mettre dans une assiette avec une boule de glace vanille comme la pêche Melba, par exemple.
Mais exactement. Hein,
ça, c'est votre top, votre numéro 1, la pêche. En numéro 2, vous diriez quoi?
La cerise.
Ah.
Parce que le clafoutis à la cerise classique avec... alors moi, dans l'appareil, dans la base du clafoutis, je rajoute de la crème épaisse.
Ah oui, ça c'est vrai. Que
alors
c'est vrai.
Forcément.
Christian Constant faisait ça déjà effectivement à la grande époque quand il faisait des fiches cuisine. Je
me
rappelle de ces crèmes épaisses effectivement dans ses desserts.
Et mais avec la cerise et le clafoutis qui est juste tiède, pas trop chaud parce qu'en fin de compte c'est une erreur, mais tiède. Les cerises, elles rendent le jus. Franchement.
Avec les noyaux.
Alors noyaux ou pas noyaux?
Alors. Noyaux,
ah, ouais, il y a
débat.
Alors, quand je le mange, j'aime bien qu'il n'y ait pas les noyaux. Quand je le fais, je les laisse.
C'est ça. c'est pareil. Je vous jure, souvent, je le montre à la télé, je laisse les noyaux parce qu'on dit que ça renforce le goût d'amande. Mais ce qui est sympa sans le noyau, c'est que justement, il y a ce petit juteux de la cerise qui va se mélanger à l'appareil.
Elles éclatent davantage.
Oui, exactement.
Elles rendent plus de jus.
En fait, je pense qu'en termes de goût, c'est meilleur sans les noyaux, je pense.
Et vous nous avez apporté des cerises, là, justement, dans un beau dessert.
Là, vous avez une petite poêlée de cerises qu'on pourrait faire vraiment à la maison, c'est démarrer à l'huile d'olive, miel, on lance ses cerises dedans, on remue tout ça, on ajoute de la coriandre fraîche, des amandes.
On retrouve ce que vous disiez tout à l'heure sur les abricots rôtis et poêlés. Vous dites elle est rôtie dans de l'huile d'olive, la cerise, mais on retrouve sa texture, elle n'est pas trop abîmée, trop fatiguée, c'est à feu doux alors j'imagine.
Mais, en fait, on commence assez fort dans l'huile, mais ça c'est une étape qui dure 2 minutes. Après, moi, j'aime bien, je les range comme ça dans mon petit poêlon et je les finis soit au four ou soit sur... Alors, à la maison, non, mais le bord du piano, du cuisinier, il n'y a rien de mieux.
Et alors, avec j'irais bien chercher une bouteille de vin doux naturel type Banyuls, mais jeune. Un millésime très récent qui a encore justement ces notes de cerise très marquées et ce côté très fruit rouge. Et je pense que l'accord avec ces cerises légèrement poêlées, parce qu'elles sont à peine poêlées, ça serait fantastique.
Avec le contraste.
Un petit guignolet.
Je vous le laisse, tiens.
Avec du Schweppes, ça c'est moderne comme cocktail, non? Alors, la pêche en numéro 1, la cerise en numéro 2, et en 3, Aurélien Rivoire, votre fruit de l'été.
Peut-être un abricot, une tarte à l'abricot.
Ah oui. Alors, comment vous la faites, tiens?
Parce
revient en force hein, sur les réseaux sociaux, on en parlait tout à l'heure.
C'est vrai.
La tarte à l'abricot, c'est le carton de l'été, là.
Bon, nos grands-parents avaient de l'avance alors.
Oui. Comme souvent.
Mais moi, en fait, je la cuirais en deux temps, c'est-à-dire que. Bien sûr, on cuit tout ensemble. Ça veut dire que la crème d'amande, le fond de tarte et les abricots, ils sont cuits à 160 déjà pendant une vingtaine de minutes. Et après, pour changer un petit peu, je la couvrirai avec un papier sulfurisé et je la finirai moins fort. Et là, alors bien sûr, vous avez moins de caramélisation du fruit, mais alors là, vous avez le jus qui va tomber dans la crème d'amande et la pâte. Et franchement...
Ça va compoter, quoi.
Ça va compoter, c'est extraordinaire.
Ouais, c'est beau, ça. On peut les faire aussi façon rustique, quand on n'a pas de moule, avec une pâte brisée, par exemple, qu'on parfume à la cannelle, et on la recouvre par-dessus les fruits. On voit beaucoup ça maintenant. J'aime bien faire ce genre de tarte.
Mais c'est la même que la mienne. C'est-à-dire que le fruit, il va cuire à l'étouffée. Donc, il va se confier. Hein. C'est forcément bon, ça. Je ne l'ai pas goûté, que j'en salive déjà, en fait.
Alors, vous travaillez comme un cuisinier. Et c'est vrai qu'il ne faut pas qu'on oublie de le dire. Elle en parle souvent, Charlotte Langrand, quand elle revient des belles tables. L'assaisonnement dans un dessert, ça a aussi son importance.
Il ne faut pas hésiter à mettre ses herbes, en fait, avec les fruits, parce que ça donne un contraste. Ça donne beaucoup de peps. Moi, j'adore. Dans la vaucerie, c'est fantastique.
Le poivre aussi marche très bien en pâtisserie, avec les fruits.
En fait, tout est assaisonnement. Ça veut dire que même un dessert au chocolat... Moi, je le vois avec du petit gruyère caramélisé, enfin plein de choses. Mais si on reste sur le fruit, les assaisonnements, ils sont de partout. Et c'est vrai que pourquoi je m'inspire des cuisiniers, c'est qu'eux, on leur apprend ça dès le début. Ça veut dire que nous, c'est peut-être moins dans nos gènes de pâtissier. Et c'est là où on a besoin de s'inspirer de ça. Donc moi, je suis entouré de cuisiniers. Donc de toute façon, je n'ai pas trop le choix. Mais c'est avec plaisir, en fait. On vient y mettre un petit vinaigre ou un trait d'un cognac dans lequel il y a une pomme fermentée qui macère.
Rien n'est interdit.
Non, c'est une politique chez nous.
Et ben voilà, retenez ce nom, Aurélien Rivoire, jeune chef de 33 ans. Il vit le fruit et il sait de quoi il parle, petit-fils de maraîcher. C'est un bonheur de vous avoir, Aurélien Rivoire.
Et ben,
merci
un plaisir.
Pour merci. Ces beaux desserts d'été. Vous les retrouverez sur europe1.fr. Nos amitiés à Yannick Aleno, hein, et
avec
qu'on
plaisir.
Retrouvera, on l'espère bientôt, tiens, à cette table sur Europe 1. Et on se retrouve dans un instant. Ne bougez pas, cher bon vivant. Didier Van Kovelaert, l'écrivain niçois, passe à table. Juste après la pause. À tout de suite.
La table des bons vivants sur Europe 1.
C'était Jérémy Frérot, fais-le. Eh bien voilà, on va le faire. Tiens, on va accueillir notre invité. Il commence à écrire dès l'âge de 7 ans. Il publie son premier livre à 20 ans et des poussières, comme il dit. Auteur d'une soixantaine de romans, de scénarios, de pièces de théâtre. Réalisateur, militant actif pour les causes animales et écologiques. Il vient de publier Le pouvoir des animaux aux éditions Albin Michel. C'est Didier Van Kovelaert, notre invité. Bonjour Didier.
Bonjour Laurent.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Ravi de vous recevoir. Vous êtes déjà venu il y a quelques temps de cela. Vous avez votre ronde serviette parce que vous êtes un
ça,
bon
c'est
vivant.
Formidable. Hein, je veux dire, un micro qui vous accueille avec le couvert, ça change tout.
C'est vrai qu'on
a l'impression d'être comme autrefois dans les wagons Pullman,
oui.
On allait en Belgique autrefois, la Flèche du Nord, tout ça. On s'assied, on est à table.
Et c'était nappé. J'adore. En plus, il y avait des nappes blanches avec des verres, effectivement.
C'est autre chose que ce qu'on a maintenant dans le TGV.
Oui,
je vous le confirme.
Et ça empêchait le paysage.
J'en reviens hier soir, c'était pas glorieux, je peux vous dire. Alors, vous venez nous voir avec un beau roman, Le pouvoir des animaux, chez Albin Michel, Didier Van Kovelaert. C'est un roman sur, on va dire, fond d'histoire d'amour et rivalité scientifique. Hein. On peut le décrire comme ça.
Oui, ils sont deux jeunes chercheurs, une biologiste et un généticien, qui sont l'un comme l'autre, focalisés, passionnés par une espèce animale. Alors, c'est vraiment... Oui, et puis c'est aux antipodes.
Ah, complètement.
Wendy, c'est un millimètre d'espoir. C'est le tardigrade, c'est ce petit animal totalement indestructible.
Incroyable.
Dont la protéine miracle pourrait aider l'homme dans ses pires maladies par rapport au cancer et à la maladie d'Alzheimer.
Dans la génétique, oui, c'est ça.
Parce que ça confère non pas l'immortalité, mais bien mieux, la résistance, notamment rupture d'ADN. Et voilà.
Oui, parce que ces animaux sont capables de se mettre en pause, en quelque sorte,
voilà,
pendant des dizaines de milliers d'années.
Absolument.
Et redémarrer un moment quand ils
voilà
le décident.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que sa programmation biologique, en termes de jours ouvrables, c'est un an et demi, pas plus.
Il ne vit pas très longtemps, en fait.
Si c'est en continu.
D'accord.
Et il peut avoir en effet des millions d'années.
C'est inspiré d'une histoire vraie, hein,
ouais,
ce que vous nous racontez dans ce roman. Et Franck, l'amoureux, on va dire, est conduit en tout cas au début de Wendy.
Bah lui, c'est un passionné du mammouth. C'est un généticien qui est sur le point d'arriver à cloner le mammouth carrément pour sauver la planète. Parce que le mammouth, si on le ramenait là où on l'a fait disparaître, notamment en Sibérie, il pourrait empêcher cette catastrophe annoncée du dégel
dans le permafrost.
Du permafrost, c'est ça. C'est-à-dire qu'il libérait tous ces virus des pandémies oubliées et puis des milliards de tonnes de gaz carbonique et de méthane, donc des explosions gigantesques qui ont déjà lieu là. Et la très bonne nouvelle, pour une fois, dans ces catastrophes climatiques, c'est que on a la solution. Ce sont les animaux, les bisons, les bœufs musqués, les chevaux sauvages. Et en remuant la neige, ils permettent justement de casser cet isolant thermique et de permettre au sol de regeler en profondeur. En 20 ans, la température du sol a diminué de 19 degrés. Donc c'est un extraordinaire espoir. Et si le mammouth, qui était le roi de ces steppes, pouvait revenir faire son boulot, là, ça serait vraiment un grand espoir d'enrayer cette catastrophe.
Le pouvoir des animaux, livre passionnant de Didier Van Kovelaert aux éditions Albin Michel. On le sait, vous êtes un bon vivant, Didier. Quel est votre goût de la semaine, alors ?
Alors, c'est une innovation. Moi, j'adore la ratatouille. Je suis né à Nice, donc
oui, on sait bien.
Eh bien, j'ai rajouté quelque chose qui n'est pas dans la recette originale, ce sont des olives.
Ah oui.
Et franchement, ce qu'apporte l'olive dans la ratatouille, c'est-à-dire, ça souligne, et par intermittence, ça ne masque pas. Moi, je suis vraiment contre les produits masquants ou qui prennent le pouvoir. Ça accompagne, ça redonne une...
Comme dans la caponata tenue sicilienne, par exemple.
Oui, hein, oui.
C'est ça, là, on retrouve des olives, on retrouve des raisins secs,
vous
par exemple.
Vous avez pris des noirs ou des vertes ?
Des pignons de pain.
Noir. Oui, oui. Noir. Parce qu'en fait, l'aubergine va très très bien avec l'olive, la tomate aussi. J'ai peur que la verte nous donne une fraîcheur excessive.
Ouais, comme dans ces romans, on est dans la précision, ouais, hein, vous avez
oui,
vu.
Oui, mais merci de dire ça, parce que moi j'écris que... Enfin, j'espère mieux que je cuisine, parce que la cuisine, bon, je suis un passionné, mais je préfère faire confiance à ceux dont c'est le métier. Mais le choix des saveurs, se méfier justement des produits masquants, se méfier de trop haute garniture, se méfier... C'est ça, un style, c'est aussi c'est ce que fait un grand chef.
Retrouver le goût de l'essentiel, hein, ouais. Voilà, c'est ça dont on a tous besoin.
Et le plaisir à transmettre.
Alors, les vacances démarrent pour certains. Patience, tiens d'ailleurs, hein, si c'est, vous êtes sur les routes, dans les bouchons en nous écoutant. Charlotte, vous nous emmenez sur la route des festivals. Alors, le monde change, hein, on le dit régulièrement à cette table. Et aujourd'hui, eh bien, on va le dire, Didier, figurez-vous qu'on peut bien manger dans les festivals. Ça, c'est une bonne nouvelle, Charlotte. Hein.
Oui, alors, sortie de crise oblige, ils ne sont pas très nombreux cette année, mais il y a juste qu'il faut de solidaires, de décalés et de gourmands pour passer un bel été à table. Alors, on commence avec le Refugee Food Festival. C'est jusqu'au 18 juillet. Il y a près de 70 restaurants dans 6 villes qui accueillent des dîners à plusieurs mains des chefs locaux à Paris, Marseille, Strasbourg, Nantes, etc. qui mélangeront en cuisine leur savoir-faire et leur culture avec des chefs réfugiés.
Belle initiative.
Voilà, vous pouvez donc réserver pour découvrir des repas afghans, syriens, iraniens, comme par exemple à Paris, le 9 juillet, un dîner ouest africain par Arunasso, Ishanobu Shigeta et Romain Méder chez Spoon, qui a dit que la cuisine française était centrée sur elle-même.
Ben voilà, c'est tout le contraire, exactement.
Quelle belle idée, ça.
On va aussi pouvoir manger dans des endroits insolites. Hein.
Oui, exactement, dans des endroits totalement hors cadre même. C'est le festival des dîners insolites, initié par Provence Tourisme, qui explore le terroir et le territoire provençal sous tous ses aspects. C'est-à-dire, dans toute la région, il y a des chefs qui vont dresser le couvert dans des lieux insolites, du Rhône à la Méditerranée, au milieu des oliviers, des marais salants, des vignes, dans des chapelles. On y découvrira la crème des chefs locaux avec, par exemple, Ludovic Turac ou Colline Folquier. C'est décalé, mais c'est aussi instructif de mettre l'assiette et son contenu aussi près de la terre d'où ils viennent. On comprend encore mieux cette notion de provenance, de saisonnalité et puis de terroir.
Ben oui, et puis tiens, pour finir et faire plaisir à Olivier Pouls, une petite escapade en Belgique.
Oui, dans le respect des normes sanitaires, bien sûr. On prend la direction de Bruxelles vers une sorte de... Oui, je crois. Vers une sorte de guinguette en bordure du bois de Cambre. Qui
du bois de la Cambre.
De la Cambre, pardon. Bois de la Cambre. Heureusement que vous êtes là.
Attention, attention. Hein.
Ça s'appelle
je ne suis pas le seul à connaître.
Didier Van Kovelaert connaît bien aussi, oui.
Ça s'appelle le kiosque et tout l'été jusqu'au 20 septembre, il y aura des Dinner in the Woods, c'est-à-dire ils mettront en lumière la jeune cuisine belge pendant 6 soirées concoctées donc par un chef différent sous les arbres centenaires. Le premier à s'y coller, c'est Damien Boucherie, le 5 juillet à 19h30. Bref, donc pour passer un été gastronomique original, rendez-vous sur le site d'Europe 1, vous aurez toutes les infos pratiques.
Eh ben merci Charlotte. Ça vous tente, Didier Van Kovelaert, ce genre d'expérience?
Ah bah, évidemment, c'est deux passions, la forêt et la cuisine, donc vous mettez les deux. Mais c'est vrai que je trouve qu'on n'a pas le même palais quand on est à l'intérieur, quand on est avec les arbres. Ce qu'on respire, ce qu'on entend.
Oui, il y a tous les sens en même temps.
Voilà, et puis on est apaisé en forêt. Vous en parliez dans votre dernier roman déjà. Ça, c'est vrai que la forêt apaise. On le sait, c'est prouvé que le taux de cortisol, l'hormone du stress, baisse quand
on
est en forêt.
Oui. On peut prendre un repas en forêt avec un casque à électrodes et par imagerie cérébrale. Tout ça, vous verrez l'état dans lequel ça vous met, bien sûr.
Eh bien, faisons ça. Tiens, pique-nique avec un casque et des électrodes pour voir comment on est tranquille en forêt. Rendez-vous dans un instant. Il y a avec un plat d'été qui est à sa place dans les festivals aussi. Un plat que vous connaissez bien, Didier Van Kovelaert. Il dégouline quand on le mange, il vient de Nice.
Pambagna.
Le Pambagna. Il arrive juste après les titres du journal de Fabienne Lemoyle.
Qu'est-ce que c'est bon,
mais
ça.
Qu'est-ce que c'est bon.
Casser l'œuf en deux, de voir couler ce jaune, c'est de l'amour.
En fin de bouche, on est cueilli par une petite acidité.
Europe 1, 11h30.
Ça va, c'est la saison, ça.
Oui, ça, c'est bien.
J'ai eu chaud aux fesses. Hein.
La table des bons vivants, Laurent Bariotte.
Qu'est-ce que j'aime cet extrait avec Anne-Elisabeth Lemoyne. Oui, c'est vrai qu'on respecte les saisons ici. Soyez les bienvenus. Hein. Si vous nous rejoignez, nous sommes ensemble jusqu'à 12h30. Didier Van Kovelaert est des nôtres. Il vient nous voir avec un roman d'amour sur fond de rivalité scientifique. Ça s'appelle Le pouvoir des animaux aux éditions Albin Michel. On vient d'en parler juste avant la pause. Didier, vous êtes né à Nice. Vous y retournez régulièrement dans cette belle ville?
Oui, je retourne manger à Nice. Oui.
Qu'est-ce que vous mangez quand vous êtes là-bas alors?
Alors, ce qu'on ne peut pas manger ailleurs, les beignets de fleurs de courge par exemple.
Ah.
Ça, c'est. Et puis, sans déflorer ce qui va venir après.
Vous pouvez.
Le plat qui dégouline quand on mange le pambagna. C'est vrai qu'il vaut mieux le manger torse nu. Hein.
C'est vrai.
Ah, oui. Et puis, quand il ne coule pas, c'est-à-dire quand ce n'est pas assez imbibé. C'est dommage.
Oui, parce que ça veut dire ça. Ça veut dire imbibé en provençal, un pambagna.
Bien sûr. Et puis, ce qui s'appelle la braise à aude, ou le broustiquing, cette tranche de pain grillé frottée d'ail et avec une huile à mon avis.
Ça y est, on y est. On est dans le midi.
C'est, et puis les petits farcis niçois, ça aussi. pas manger à Paris, ça, parce que dès qu'on rajoute de trop de chapelure, de riz, tout ça,
ah non.
Fait...
Non, la soca,
Ah ben la soca, ça c'est mon goût d'enfance.
Cette galette de pois chiche.
Ouais, sur le cours salé, et c'est un plat à manger debout. Je veux dire, c'est pas la même chose quand on la mange fourchette. C'est pas pareil.
En faisant
si
le marché, absolument,
marchant,
bien ouais. Sûr.
Et puis ça, c'est bien que ça brûle un peu les doigts. Ça...
Il y a le croustillant, effectivement, ça casse un petit
et
peu.
Et ça va avec les saveurs qu'on attrape en marchant, toutes les odeurs. Ouais, ça, c'est,
eh bien,
c'est
je vous présente un amoureux des saveurs comme vous. Il maîtrise bien la cuisine niçoise, même s'il est à Paris. C'est Yoni Saada. Bonjour Yoni Saada.
Bonjour, bonjour tout le monde.
Bonjour. Chef du restaurant Bagnard à Paris, qui s'est fait une spécialité, justement, du pan Bagnard. Et il arrive dans le studio Coluche, justement. Regardez. Ah, ouais. Alice et Marion nous apportent ce joli pan bagnat avec une belle tranche de pain. On rappelle les ingrédients tiens, du pan bagnat, Yoni, à l'intérieur, parce qu'attention, les Niçois qui nous écoutent vont être attentifs. Hein. Il n'y a qu'un ingrédient cuit dans le pan bagnat.
Laurent, je me suis réapproprié le pan bagnat voilà. Parce que c'est important.
C'est comme la salade niçoise.
C'est comme
ça,
salade
c'est les deux tabous.
Bon, après, il y a certaines choses comme la salade niçoise, on ne rajoute pas de riz ou de pommes de terre, évidemment.
On est d'accord. Ouais.
Là, moi, je rajoute par exemple juste un petit peu de mesclun. Donc, on est sur un pain semi-complet parce qu'il ne faut pas oublier que c'était quand même le sandwich du pauvre à la base, du pêcheur qui était un pain de campagne qu'on grattait à l'ail et qu'on mouillait parce qu'il était un petit peu rassis. Donc nous, on est sur un pain frais qui est fait juste à côté de Paris, qui est mouillé dans une eau de tomate huilée avec un petit peu d'ail. On a du radis, de l'olive, on a des oignons nouveaux. Ensuite, on met un thon émietté, des œufs durs bio, bien sûr, et un mix entre le mesclun et le basilic, et ensuite tomate et anchois marinés. J'ai choisi des anchois marinés pour amener un tout petit peu d'acidité et moins de sel. Et je rajoute par contre de la fleur de sel.
Mais vous êtes dans les clous parce qu'il y a un seul ingrédient cuit qui est l'ingrédient officiel qui est l'œuf dur. Hein.
Qui est l'œuf dur, tout à fait.
Surtout pas de riz, de pommes de terre et de haricots verts et de choses comme ça.
Et puis, franchement, c'est dans la norme. Hein.
Ah, ça me fait plaisir. Venons à Niçois, alors là, je suis honoré.
Il n'y a pas d'hérésie. Ce qui est nouveau, enfin, dans ma pratique du pan bagnat, c'est le basilic. Mais le basilic est totalement chez lui aussi. Mais c'est vrai que c'est une note particulière.
Ouais. Ben, certains disent qu'ils ne mettent que du basilic, d'autres du mesclun. Et moi, j'ai choisi vraiment pour ramener une stabilité de saveur, de mélanger un petit peu les deux et ramener un côté un peu végétal. Mais ce qui est important, en fait, le pan bagnat, c'est vraiment qu'il soit mouillé.
Mais je crois que vous mettez autre chose aussi, vous avez votre petit secret.
Oui, ben moi, nous on relève un peu l'eau de tomate en fait, avec un tout petit peu de citron et de l'ail. Et en fait c'est comme une vinaigrette qu'on crée avec de l'huile d'olive.
C'est ça.
Pour pas avoir le côté trop gras non plus, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un thon qui a l'huile. Donc le but ça a été de stabiliser, de ne pas créer une aguesie à travers toute cette huile qui peut très vite trop entourer le palais. Mmh. Vous voulez amener un peu de stabilité, un peu de fraîcheur, même s'il y en a déjà beaucoup dans celui de Nice, évidemment.
Didier Van Kovelaert, c'est un bonheur de vous avoir à table.
Vous allez me faire parler.
Il a dégommé déjà la moitié de votre plat.
Bah franchement, ça me fait très plaisir.
Mais il ne s'est pas mis torse nu pour le manger.
Bah non, avec risque et péril, on verra bien.
Oui, mais ça, c'est le côté méditerranéen. On aime bien manger torse nu. C'est ça que je trouve magnifique.
Qu'est-ce que vous nous avez apporté, Yoni Saada, pour boire avec ce pan bagnat alors
Pour vous, Laurent, j'ai ramené une citronnade au pastis. Alors, on l'a fait soit nature, spécial, soit au basilic.
C'est fou, hein.
Et je trouve que ça accompagne bien le pan bagnat.
Ah là, vous me gâtez. C'est vachement bien ça.
C'est un mélange de citronnade et de pastis. Tout simplement. On remplace
exactement
l'eau du pastis traditionnel.
Alors on met un peu d'eau quand même parce qu'on est à midi.
Ça se boit tout seul. Ça a l'air traite, hein, ça a l'air fourbe ce truc-là parce que ça se boit tout seul.
C'est quoi les proportions?
Ça se descend comme une citronnade.
C'est un tiers de jus de citron, un deuxième tiers d'eau et ou peut-être un peu plus et après le riz et après le pastis, bien sûr.
D'accord. Merci Yoni Saada d'être passé par la table des bons vivants. On vous retrouve dans le quartier Saint-Antoine à Paris, à Boulogne également. Votre restaurant Bagnard et celui du Marais rouvrira en septembre, c'est ça?
Exactement, en septembre, et celui du deuxième et de Boulogne sont ouverts.
Et validé par Didier Van Kovelaert.
Bah, merci Didier.
Super. Y compris la, c'est une tuerie, hein, la
c'est magnifique.
La pastille, vous l'appelez pastinade?
La citronade pastaga, exactement.
On revient dans un instant avec Didier Van Kovelaert et les 2 minutes du vin d'Olivier. On part trinquer en Toscane. A tout de suite.
La table des bons vivants sur Europe 1.
Après avoir dégusté la vraie feta grecque et dévoré des yeux et des oreilles les desserts fruités d'Aurélien Rivoire, nous revoilà avec notre invité Didier Van Kovelaert, auteur du Pouvoir des animaux, un joli roman avec une belle histoire d'amour et puis aussi des rivalités scientifiques à l'intérieur, c'est chez Albin Michel. Didier Van Kovelaert, vous avez commencé à écrire à l'âge de 7 ans, qu'est-ce que vous racontiez dans ces premiers écrits?
Dès que j'ai appris à écrire à l'école, quoi, c'est 7 ans et demi. Quoi. Et les mots, ça servait à raconter des histoires. C'était des jouets merveilleux. Donc, j'ai commencé par le roman policier vu par un enfant. C'est une manière d'entrer par effraction dans le monde des adultes. Le premier héros, voilà, c'était un petit garçon dans son orphelinat. Et il trouvait un type qui a été tué par son patin à glace. Et donc, il se sentait responsable, puisque c'était à lui,
ah oui,
l'arme du crime.
La culpabilité.
Et à partir de là, bah, il menait une enquête.
Vous faites une pause déjeuner quand vous écrivez vos romans à la maison.
Le plus tard possible, parce que Dieu sait si j'aime manger, mais l'ennemi de l'écriture, c'est la digestion, c'est la fatigue.
Mmh. Ah oui. Et donc, la sieste qui est derrière.
Oui, ça j'évite. J'ai besoin d'écrire vraiment en concentré. Donc, je triche un peu. Je commence vers 5h30, thé, vert, biscuit. Ensuite, vers 9h, un vrai petit déjeuner, là, avec du café. Puis ensuite, j'essaie de tenir.
Musique, pas musique, radio, pas radio.
15h, 16h, non, rien. Pour me réveiller le matin,
oui c'est
la
ça.
Musique, des choses qui tonitruent.
Verdi.
Verdi, Offenbach, Brel, Morane.
Des belles voix.
Voilà, de la voix qui pulse, quoi. De la voix qui...
Alors ça va pulser peut-être avec Olivier Pouls, parce que voici vos 2 minutes du vin, cher Olivier. Vous nous offrez un voyage dans une des plus belles régions d'Italie.
Et oui, nous partons, si vous le voulez bien, pour la Toscane. Alors la Toscane, hein, ses paysages doux et vallonnés, ses villages pittoresques, ses villes d'art, et puis ses vignobles, évidemment, parce que comme dans beaucoup, beaucoup de régions d'Italie, on trouve évidemment de la vigne, alors depuis très, très, très longtemps, hein, l'époque romaine au moins. Mais quand on pense au vin de Toscane, l'image qui vient, c'est le... Chianti, vin un peu de pizzeria malheureusement, et des Brunello de Montalcino un petit peu rustique. L'image n'est pas...
C'est pas très valorisant pour le vignoble toscan, ça.
Ben, ça ne l'a pas été pendant longtemps, et pourtant, Dieu sait s'il se passe beaucoup de choses là-bas, parce que las de cette image, et surtout contraint de travailler des cépages dans lesquels il ne croyait plus vraiment, notamment le Sangiovese, il y a beaucoup de vignerons qui, dans les années 60 et 70, se sont mis à balayer un peu tout ce passé, et ont voulu rentrer dans une démarche, on va dire, plus moderne, en introduisant notamment des cépages qui n'étaient pas des cépages historiques. On a vu arriver le Cabernet Sauvignon, le Merlot, la Syrah, par exemple, ces grands cépages internationaux, qui au début n'avaient pas le droit de rentrer dans l'aire d'appellation, parce qu'ils n'avaient finalement rien à faire là. Mais d'abord, ces vins ont rencontré un succès incroyable, et puis sous la pression finalement des consommateurs, ils ont finalement, pour la plupart, été intégrés. Et aujourd'hui, on parle d'une catégorie à part qu'on appelle les super toscans, qui sont ces vins-là.
Mais vous voulez dire qu'on ne peut plus trouver de vins typiques en Toscane ?
Alors, vins typiques au sens de ces cépages anciens, on peut les retrouver parce qu'aujourd'hui, il y a un vrai retour du Sangiovese, qui est un cépage, il faut le dire, extraordinaire. Mais il a trop longtemps été mal fait. Il n'était pas récolté mûr. On faisait pisser la vigne, comme on dit. Aujourd'hui, il y a des Chianti magnifiques, des Brunello di Montalcino incroyables, toute une série d'appellations. Mais il y a aussi ces vins, voilà, un peu plus moderne. Et là, je vous ai apporté un cru qui s'appelle Cairosa. C'est une propriété dans laquelle on trouve justement un mélange de cépages traditionnels de Sangiovese et de cépages plus modernes que sont le Cabernet Sauvignon, le Merlot, dans un vin de profil, là, pour le coup, très moderne. Il n'y a rien de rustique. C'est un grand vin.
Ça sent un peu le caillou quand même. Hein.
Alors, il y a cette minéralité, évidemment.
Il y a de la mûre.
Mais
hein,
il y a du fruit.
Le nez est formidable.
Il y a beaucoup de fruits. Il y a un petit peu d'élevage, mais pas trop. Et ça, ce sont des vins qui vieillissent 20 ou 30 ans. Bon, comme c'est la dernière de la saison, je vais casser la matière à lire. Je vais vous apporter un vin qui coûte un peu cher.
C'est combien un peu cher?
Ça coûte une cinquantaine d'euros.
Ah oui, quand même.
Quand même, ouais, ça peut être bon. Mais bon, c'est les vacances, Laurent. Ouais. C'est mon petit cadeau pour vous accompagner.
C'est les vacances et ça marche hyper bien avec le Pambagna, en plus.
Ah, ça marche très bien parce qu'il y a ce côté effectivement puissant et méditerranéen. Ah oui, on retrouve ça évidemment aussi dans le Pambagna.
Vous validez? Didier Van Cobbler.
Il y a de la mûre, il y a de la griotte. C'est
très concentré.
C'est un bel amateur. Hein.
Concentré, mais une grande vivacité au nez. L'attaque est corsée, mais il y a une bonne longueur.
À quand un roman sur le vin?
J'en mets toujours un petit peu. Parce que voilà, j'aime les personnages qui sont animés par des passions, par le fait de donner corps au partage, à l'instant présent, de souligner les émotions, par d'autres plaisirs.
Le vin est un joli sentiment. Vous en parliez aussi dans Le Père adopté, votre magnifique roman sur votre papa. Je m'en souviens. Allez, c'est bientôt l'heure de passer sur le grill des bons vivants, Didier Van Cauwelaert, et on revient juste après la pause. À tout de suite.
11h30 sur Europe 1, la table des bons vivants.
Bonne cuisine si vous êtes en train de la faire et bonne route si vous êtes sur celle des vacances. Patience peut-être dans les bouchons. Nous, on se régale avec Didier Van Cauwelaert, notre invité, et avec son dernier roman, Le pouvoir des animaux, aux éditions Albin Michel. Didier Van Cauwelaert, vous êtes un amoureux de la nature et des animaux et vous êtes un vrai défenseur des animaux, si on peut le dire.
Oui, dans ce roman-là, je leur ai donné la parole. En fait, cette histoire d'amour est vue par les deux animaux qui sont la passion de chacun de ces chercheurs.
Redites la petite bestiole, comme on vous l'appelle.
Le tardigrade. Cet animal indestructible.
Et le mammouth. Qui...
Vous ne voulez pas en adopter un, non?
Je sais que ça vous plaît, vous.
Ah, c'est moins encombrant qu'un mammouth.
Si je veux en adopter un, puisque ça peut nous régénérer, nous empêcher de vieillir.
Vous avez sûrement les tardigrades à la semelle de vos chaussures. Il y en a partout.
Ah, bah je vais regarder
partout,
ça de plus
près. Il y en a partout et sur toute la Terre. C'est intéressant. Un millimètre et demi, on ne les voit pas forcément à l'œil nu, mais ils sont là. On ne les remarque pas, mais ils sont plus là que le mammouth.
Vous qui êtes amateur de poissons, le niçois d'origine, on a une bonne nouvelle depuis jeudi. La pêche électrique est totalement interdite en Europe. Ça fait partie des bonnes nouvelles que vous appréciez en tant que défenseur des animaux. Ça.
Enfin, maintenant, est-ce que ça va l'arrêter? Parce que bon, allez contrôler. Ce qu'on fait à Nice aussi, c'est la pêche au lamparo. C'est la nuit, la pêche nocturne.
C'est ça.
La lumière, oui. C'est pas terrible non plus. Ça. Je veux dire, toute cette pêche intensive qui a des effets dévastateurs terribles. Mais bon, c'est déjà bien d'avoir une mesure, mais...
La chasse à la glu pour les oiseaux, les grives, les merles noirs viennent d'être interdites aussi cette semaine. La Commission européenne s'est engagée à interdire l'élevage en cage en 2027. On avance dans le bon sens quand même sur la protection animale. Il n'est pas question de ne plus manger d'animaux d'élevage. C'est ça aussi la problématique aujourd'hui. C'est qu'on ne veut plus savoir comment les animaux sont élevés, encore moins comment ils sont abattus. Je ne parle pas d'abattage ignoble. Hein.
Vous savez, quand vous torturez les animaux, vous le payez en les mangeant. Une vache à qui on enlève son
veau,
elle le sent, elle sait tout de suite. Et elle... Le stress maximum provoque en elles, d'ailleurs on leur donne, déjà ils sont bourrés d'antibiotiques pour la question de croissance et tout ça, donc ça se retrouve en nous.
Donc on en revient toujours à la même chose, c'est manger moins de viande mais de meilleure qualité, mieux élevé, en liberté, en plein air, par des éleveurs respectueux, et pareil pour la pêche, des poissons de pêche durable.
Vous savez ce que je fais moi pour, peut-être pour être en règle avec ma conscience, mais j'ai toujours une pensée pour l'animal que je mange, et je lui dis merci. Vous savez, c'est le sens du bénédicité, hein. Avant d'être religieux, c'est créer un dialogue, c'est chamanique plus que ça, c'est créer un dialogue avec l'être vivant que l'on mange en le remerciant.
Didier Van Kovelaert, ça y est, c'est l'heure de passer sur le grill justement de notre questionnaire, le questionnaire des bons vivants. Alors quel est le goût de votre enfance?
Alors on a déjà parlé, c'est la soque, cette galette de farine de pois chiche qu'on mange en marchant sur le cours Saleya.
À Nice. Ouais. Le premier plat que vous avez cuisiné?
C'était pour l'anniversaire d'une copine et c'était un gâteau vache qui rit et aux chips. Parce que elle supportait pas, je pense qu'il vaut mieux pas, non, je
garde ça secret.
Mais en fait, elle n'avait pas droit au sucre, bon, à cause de diabète dans la famille, ouais. Tout ça. Donc, je lui faisais un gâteau d'anniversaire et j'essayais de faire tout. Alors, c'était très beau avant la cuisson, vous savez, des corolles de chips, c'était comme une fleur. Et puis, avec de la vache qui rit, et tout. Et puis, mais j'ai eu le temps de vouloir le mettre au four. Et puis après, voilà.
Mais ça partait d'un bon sentiment.
C'est un acte d'amour. Ben oui. La cuisine, c'est un merveilleux acte d'amour.
Vous aviez quel âge?
Au niveau des préliminaires. 9 ans.
Ah oui, c'est ça. Oui, c'est beau. Ça part d'un bon sentiment.
J'ai commencé à être amoureux en même temps que j'ai commencé à écrire. Vous savez, ça va ensemble.
Ça va ensemble, oui. Votre plus beau repas?
À Tokyo. Avec Michel Legrand, quand on a créé notre comédie musicale Le Passe-Muraille là-bas. Et les producteurs avaient réquisitionné un restaurant. Enfin, le restaurant était fermé ce jour-là, ils l'avaient fait rouvrir. Et moi qui ne suis pas très cuisine japonaise en France, parce que ça ne supporte pas la médiocrité, j'ai compris pourquoi. Et là, c'était un festival aussi bien pour les yeux que pour le nez et le palais. C'est-à-dire la dextérité au couteau, les découpeurs, là-bas, c'est extraordinaire. Vous avez vraiment
un spectacle.
Numéro. Vous aviez le spectacle en cuisine. Et en plus, ils cuisinaient autour de nous. On était itinérants, si vous voulez, ce qu'on peut rarement faire dans une cuisine, à moins d'être vraiment copain avec le chef, et puis vous gêner. Tandis que là, non, ils étaient dans un périmètre clos et nous, on est autour. C'est merveilleux, ce souvenir.
Vous êtes vraiment un mangeur multisensoriel, hein, ouais. Depuis tout à l'heure.
C'est vrai. Votre pire repas, Didier Van Kovelaert?
Alors ça, c'était au Salon du Livre de Saint-Pétersbourg. Les Russes sont mon plus nombreux lecteurs à l'étranger. C'est-à-dire tous mes livres sont traduits là-bas.
Très lus à l'étranger.
Et en plus, les jeunes sont encore très francophiles dans les universités. Donc ça, on l'oublie souvent. Et il y a... Donc c'est pas pour dire du mal d'eux. Simplement, l'équipe de télé qui me filmait, c'était une émission censée se passer à table. C'était l'interview à table. Mais ils étaient très, très pointilleux. Donc il fallait refaire des retakes,
reprises,
retourner. Et là, à chaque fois, on me servait un plat. Et c'était très coloré, c'était très infect, et je ne sais pas ce que c'était. Ça m'est jamais arrivé. Et en plus, ça revenait après, parce que je mangeais un plat vert, et puis après, il fallait revenir à une question, parce que peut-être j'avais donné une réponse là, qui faisait doublon avec la précédente. Donc, on refaisait la séquence violette, c'est-à-dire avec un petit plat, une pâte violette devant moi que je remangeais. Et c'est, vous savez, un jour sans fin, le film. C'est ça, c'était un repas sans fin avec les, dans les deux orthographes. Mais c'était sympa quand même.
Votre bande originale pour cuisiner, Didier Van Kovelaert ?
Ah, Verdi. Verdi, c'est... J'adore... Le Trouvère, la Traviata, ce sont des, c'est une invention constante et une débauche de saveurs et de générosité parce que avec un air de Verdi, tout à coup, ça pourrait faire tout un opéra et puis hop, il change, il part, il en allume un autre. Dans le Trouvère, il y a de quoi faire 25 opéras.
Et on l'écoute, là, Jean-Luc Arblade vient de nous mettre un petit air et c'est vrai que ça fait du bien. Hein. Quel plat emmèneriez-vous sur une île déserte ?
La ratatouille, parce que en fait, ce que je trouverais sur mon île, je pourrais essayer de l'y accommoder. J'aime bien hein, sur des plats références comme ça, mais qui sont des plats de la mixité. On peut toujours rajouter un musicien dans l'orchestre.
Qui sont les invités de votre dîner idéal ?
J'ai quelqu'un avec qui j'étais très heureux à table, c'était Frédéric Dard.
Qui aurait eu 100 ans cette année.
Ouais, je sais. Lisez le formidable hors-série du Point, dans lequel j'ai eu le plaisir de faire une petite contribution. C'est un merveilleux cadeau posthume que lui ont fait l'équipe du Point. Et voilà, Frédéric à table, c'était moi en pire. C'est-à-dire, il y a un enthousiasme, un accord avec les vins.
La cuisine lyonnaise.
Le château, et puis le château Ikem avec lui, je veux dire, c'était une merveille. C'était. Voilà. Et puis. Ionesco, Eugène Ionesco, c'est un souvenir à Nice, au Salon du Livre de Nice, et c'était vraiment la fin de sa vie. Et on était tous dans un restaurant, et sa femme le surveillait, parce qu'il est très très au régime, et il disait, il faut que j'aille dire un truc. Il allait s'asseoir près d'un auteur, bon, ça m'est arrivé à moi comme à d'autres, et en fait, il tournait le dos à sa femme, et comme s'il parlait, en fait, il venait manger mon assiette. Et ça, c'est un souvenir, et après, les gens disaient, c'est formidable, t'as passé 10 minutes avec Ionesco, qu'est-ce qu'il t'a raconté ? Bon, rien, il a bouffé.
Il a piqué mon assiette.
Et en disant merci. Et Greta Garbo, c'est pareil, Greta Garbo, c'est un souvenir d'enfance. C'était au restaurant chez Camille, près de Ramatuelle. Et ma famille avait emmené là-bas, c'était l'anniversaire de mes grands-parents. Et tout à coup, dans ma bouillabaisse, arrive une pince de homard. Qui m'éclabousse comme ça. Et en fait, je me retourne et ça venait de la table voisine en craquant avec le casse-noix. Ça avait
giclé.
Ça arrive.
Et je vois mon père qui blêmit et il me dit « T'as vu qui c'est ?» Et en fait, c'était la dame qui avait tiré, si je puis dire, c'était Greta Garbo.
Éclaboussée par Greta Garbo.
Et c'était son héroïne. Bon, c'était sa star mythique. Il me faisait voir des films en noir et blanc. Moi, gamin, ça ne me disait pas grand-chose. Et là, il me dit « Va la lui rendre ». Et voilà que je pars avec ma pince pour aller voir Greta Garbo. Il y avait une grande capeline, des lunettes noires, et puis deux gardes du corps qui se lèvent en me voyant arriver avec un objet qui avait l'air tranchant. Et le temps que j'explique que ça avait atterri dans mon assiette et que je venais le rendre, il s'est passé un petit temps, et puis je suis retourné à table. Et mon père, blême, me dit « Qu'est-ce qu'elle t'a dit ?» Et là, j'ai dû broder, j'ai dû inventer, qu'on avait une conversation imaginaire. Voilà,
le romancier bien... déjà à l'œuvre. Et le mot de la fin, pour terminer, F-A-I-M, Didier Van Kovelaert.
Alors ça, c'est ma mère qui était une formidable cuisinière et elle avait qu'un défaut, c'était genre ce mot de la fin. Bon, mais vous n'allez pas m'en laisser. Allez, qui veut finir ? Et là, et après, parce qu'elle cuisinait vraiment très bien, mais trop copieux. Et là, c'est le côté, faut finir, ça devenait... Et là, elle se fâchait quand on ne finissait pas. Et ça arrivait presque parfois à gâcher le repas, mais j'ai toujours dans le cœur et dans le palais la saveur de ce qu'elle cuisinait.
Eh ben, joli mot de la fin. Merci d'être venu nous voir, Didier Van Kovelaert.
C'est toujours un plaisir.
On retrouve votre roman hein, en librairie, Le pouvoir des animaux, chez Albin Michel. Merci à ma belle équipe de m'avoir aidé à préparer cette émission. Salut Charlotte Langrand.
Salut Laurent.
À demain dans le journal du dimanche.
Oui.
Salut Olivier Pouls.
Au revoir Laurent.
Au revoir, mais pas vraiment au revoir, parce qu'on va se retrouver tous ensemble tout l'été avec une table des bons vivants d'été. Et puis à partir de lundi, Olivier, on vous retrouve tous les midis sur Europe 1, du lundi au vendredi. Qu'est-ce que vous allez faire ? Racontez-nous.
Eh bien, pendant que vous serez sur la plage, vous pourrez m'écouter d'ailleurs.
C'est ce que je vais faire.
Moi, je vais vous parler tous les jours entre 12h et 12h30 de produits, de producteurs. Et puis je recevrai des chefs pour magnifier ces produits. On donnera quelques idées de recettes et on apprendra à les choisir. Ça s'appelle le marché de midi et c'est tous les jours de 12h à 12h30.
Et bien voilà, une belle succursale de la table des bons vivants du lundi au vendredi de midi à midi et demi avec Olivier Pouls sur Europe 1. Et vous retrouvez cette émission évidemment en podcast, hein, vous le savez. Dans un instant, c'est Europe Midi avec Fabienne Lemoyle. Merci Jean-Luc Herblade à la réalisation. Merci toute la fine équipe, Agnès Vaudin à la programmation. Et on se retrouve samedi prochain pour une belle table des bons vivants d'été. On sera là cet été et on sera là à la rentrée. Salut tout le monde.